Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Une répression meurtrière au Soudan, au moins 15 manifestants anti-putsch ont été tués hier à Khartoum. La fête de l'indépendance aujourd'hui au Maroc, un jour historique pour le peuple, il a fallu que les circonstances soient réunies pour arracher l'indépendance de notre pays, nous dira l'ancien ministre marocain de l'Emploi et des Affaires Sociales, Abdeslam Siddiqui, sera l'un de nos invités. Le sultanat d'Oman célèbre également sa fête nationale ce jeudi, une fête en commémoration de l'anniversaire du défunt sultan Qaboos. Le Centre culturel algérien reçoit ce jeudi à 19h Stanislas Franquiel, historien, enseignant à l'Université d'Artois. Il présente son ouvrage « Le football des immigrés, France-Algérie, l'histoire en partage », entretien dans votre édition. C'est aujourd'hui la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Emmanuel Macron annonce un renforcement du contrôle parental sur les écrans utilisés par les enfants et une nouvelle application pour aider les victimes à dénoncer les faits. L'hebdomadaire Politis dans la tourmente, le journal lance un appel à un soutien massif et rapide. Il en va de la vie du journal. Nous écouterons l'une des figures de Politis, le journaliste et éditorialiste Denis Siffer. Le Soudan a vécu hier sa journée la plus sanglante depuis le coup d'état militaire du 25 octobre dernier. Au moins 15 manifestants anti-putsch ont été tués à Khartoum lors de manifestations. Un syndicat de médecins pro-démocratie indique que les forces de l'ordre ont visé la tête, le cou ou le torse des manifestants. Une répression menée par l'armée qui a également coupé toutes les communications. Le peuple marocain célèbre aujourd'hui le 66e anniversaire de l'indépendance du royaume. Il commémore mort le discours de feu Mohamed V en annonçant la fin du protectorat. C'est un jour historique pour le peuple. Il a fallu que les circonstances soient réunies pour arracher l'indépendance de notre pays, nous dit l'ancien ministre marocain de l'Emploi et des Affaires Sociales. Entretien avec Abdeslam Siddiqui.
La fête de l'indépendance est toujours un jour historique pour le peuple, parce qu'on passe d'une étape à une autre. D'une étape historique, 1912 à 1955, donc c'est pratiquement un peu plus d'un demi-siècle de colonisation, pendant laquelle le peuple marocain a enduré. Il a fallu donc que les circonstances soient réunies pour arracher l'indépendance de notre pays. Ce n'a pas été facile. Il est venu suite d'abord à une âpre lutte du peuple marocain, la mobilisation de la résistance, et qui a duré notamment depuis l'exil de feu Mohamed V à Madagascar, de 1953 jusqu'à 1955. Et je crois que les autorités à l'époque, ils ont commis une grave erreur d'avoir exilé le roi. Ils croyaient qu'on exilait le roi et on nomme à la place un roi, entre guillemets, fantoche, qui ne représente que lui-même. Ils croyaient pouvoir étouffer la voix du peuple marocain, mais je crois que cette volonté de libération, pour nous, c'était la priorité des priorités. Une fois que nous avions acquis l'indépendance, donc cette date est ancrée dans notre mémoire. C'est un référentiel. C'est en quelque sorte un stimulant pour aller de l'avant. Et ce serait bon de rappeler cette fameuse phrase qui est restée dans nos mémoires, qu'a prononcée par feu Mohamed V quand il est retourné de son exil. Il a dit « Voilà, nous sommes sortis de la petite bataille et nous rentrons aujourd'hui dans la grande bataille. » Cette grande bataille, c'est la bataille de développement du pays. Et effectivement, ce qui a été fait, ce que se fait aujourd'hui, et ce qui va se faire. Depuis lors, permettez-moi de distinguer trois grandes étapes depuis notre indépendance à aujourd'hui. Mais rapidement, la première étape, il s'agissait de mettre en place les fondements d'un État moderne, c'est-à-dire les institutions de souveraineté, à savoir la Banque d'État, la Banque du Maroc, la Banque centrale, c'est pour quand même l'émission de la monnaie, c'est fondamental, et la Banque de développement, la BNDE, et un dahir, c'est-à-dire une loi sur les libertés publiques pour la création des syndicats et des associations de 1958. La deuxième étape qui a commencé avec feu Hassan II, il consistait à lancer notamment les grands barrages. Et le nom de Hassan II est pratiquement couplé à cette politique des grands barrages, outre bien sûr la grande épopée qui est la marche verte de 1975 pour libérer nos territoires qui étaient sous domination espagnole. C'est les provinces sahariennes. Je ne rentrerai pas dans le détail. La troisième étape, il a aussi commencé avec l'actuelle loi Mohamed VI, depuis 1999. C'est d'abord une réconciliation nationale, c'est important, c'est-à-dire assurer les Marocains, mettre fin aux dissensions qui ne devrait pas avoir lieu, notamment sur la culture à mesure. On a résolu la question de la culture à mesure. On s'est attaqué aux inégalités sociales, aux problèmes sociaux, à généraliser la protection sociale, à lutter contre la pauvreté et à doter le pays d'une nouvelle constitution en 2011. Maintenant, voilà le Maroc, comment il a évolué. Et on va poursuivre, comme je l'ai dit au départ, cette bataille pour le développement, pour ancrer le Maroc d'une façon positive dans, le, dans son environnement international, pour que notre pays, d'abord, satisfasse les besoins fondamentaux de notre peuple, mais en même temps, joue un rôle qui lui sied, un rôle qui lui convient sur la scène régionale et internationale, et être un partenaire crédible au niveau international et dans les instances internationales. Voilà, c'est pourquoi que à chaque fois qu'on célèbre cette fête de l'indépendance, bien sûr, on regarde dans le miroir pour voir un peu notre passé, mais surtout, on s'intéresse vers l'avenir. Vers l'avenir, comment relever les défis de demain, pour comment améliorer le niveau de vie du peuple marocain, comment résoudre les différents problèmes, comment démocratiser davantage notre pays. Et je crois que c'est ça la force du Maroc, c'est ça la force de l'indépendance, c'est ça la leçon. La grande leçon que nous avions tirée de l'indépendance de ce pays. Parce qu'un peuple dominé, asservi, ne peut pas avancer, c'est normal, parce qu'on était sous l'emprise de la colonisation. Mais maintenant, nous sommes un peuple libre et libéré, donc nous avons les côtés franches pour travailler à l'aise.
Une occasion, vous l'avez rappelé, de rendre hommage à Mohamed V. On se souvient de ses propos du sultan Sidi Mohamed Ben Youssef le 18 novembre 1955. Nous nous réjouissons de pouvoir annoncer la fin du régime de tutelle et du protectorat et l'avènement de la liberté et de l'indépendance.
Ça veut tout dire. Rendre hommage à ces grands hommes, parce que derrière chaque bataille, derrière chaque succès, il y a des hommes et des femmes. Les succès ne tombent pas du ciel. Ils sont l'œuvre des hommes. Et là, en partie, la libération de notre pays, c'est l'œuvre de Mohamed V, bien sûr, avec l'appui et l'engagement de tout un peuple derrière lui.
Et chaque fête de l'indépendance est une occasion pour le Maroc de transmettre le sens de la patrie aux jeunes générations.
Exactement. Il faut transmettre le sens de la patrie à travers les écoles, à travers les manifestations. Il faut toujours, parce qu'il faut qu'il y ait une poursuite. Il faut que les jeunes d'aujourd'hui, il faut qu'ils se rappellent que les choses n'ont pas été faciles. Comme ça, ils vont travailler, ils vont être sérieux. Le Maroc d'aujourd'hui n'est pas le Maroc d'hier. Ça a totalement changé. Mais il faut bien qu'on sache qu'on n'est pas arrivé à ce niveau-là par une baguette magique. C'est par le travail, par l'engagement, par la mobilisation, par l'effort, etc.
L'ancien ministre marocain de l'Emploi et des Affaires Sociales, Abdeslam Siddiqui. Le sultanat d'Oman célèbre également sa fête nationale. Aujourd'hui, une fête en commémoration de l'anniversaire du sultan Qaboos, le sultan Qaboos ibn Saïd, qui est né le 18 novembre 1940 et décédé le 10 janvier 2020, après plus de 49 ans de règne. Une nouvelle candidature à la présidentielle libyenne, prévue le 24 décembre prochain. Le président du Parlement libyen, Aguila Saleh, s'est porté candidat. Je m'engage à respecter la déclaration constitutionnelle, à garantir l'indépendance de la justice et à préserver l'unité et l'indépendance de la Libye, selon ses mots lors de l'annonce de sa candidature. Elle intervient après celle de l'un des fils de Muammar Kadhafi, Saif al-Islam, et du maréchal Khalifa Haftar. La suppression du système de subvention généralisée des produits de base en Algérie, elle a été votée hier par les députés. Ce système qui existait depuis des décennies sera remplacé par un ciblage des plus nécessiteux dans le cadre de la loi de finances pour 2022. Le Premier ministre assure que le gouvernement n'entend nullement renoncer au système des aides d'État. Le Centre culturel algérien reçoit ce soir à 19h Stanislas Franquiel, historien et enseignant à l'université d'Artois. Il présente son ouvrage « Le football des immigrés, France-Algérie, l'histoire en partage ». Plusieurs anciens internationaux de football, notamment Nasser Guedouillara et Nordine Kourichi. Stanislas Franquiel.
Cet ouvrage est issu du remaniement approfondi de ma thèse de doctorat que j'avais soutenue il y a une quinzaine d'années. Il porte sur l'histoire des footballeurs professionnels algériens en France des années 30 à nos jours. C'est un ouvrage qui est publié à Artois Presse Université dans la collection Culture Sportive. Je voulais m'intéresser aux relations passionnelles et passionnantes entre la France et l'Algérie à travers le football et notamment à travers les footballeurs d'élite, les footballeurs professionnels. Il me semblait d'autant plus intéressant de s'y intéresser que, à l'époque coloniale, plus de 40 footballeurs professionnels, par exemple, jouaient chaque saison dans les années 50 en première et en seconde division, des footballeurs professionnels algériens qui évoluaient dans la métropole, qui pour eux sera une expérience émancipatrice. Je voulais aussi m'intéresser à la fameuse équipe du Front de Libération Nationale, qui est un des plus grands symboles de politisation du sport, et j'ai eu la chance de retrouver en France et en Algérie la quasi-intégralité de ces joueurs. Et puis évidemment, je voulais, à la relecture un peu des travaux du sociologue algérien Abdelmalek Sayad, m'intéresser aux footballeurs binationaux qui vont jouer dans le championnat de France, mais aussi qui vont évoluer sous le maillot algérien très tôt, en fait, dès les années 1980.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette équipe du FLN, qui est une équipe mythique pour de nombreux Algériens ?
Tout à fait, c'est une équipe qui est mythique, qui est secrète aussi, qui est peu connue. Donc en gros, on a une trentaine de footballeurs professionnels algériens qui, entre 1958 et 1960, vont quitter clandestinement leur club, la métropole, leur vie confortable qu'ils avaient réussi à se construire en France avec leurs femmes françaises et avec leurs épouses, avec leurs enfants, souvent dans la nuit, clandestinement. Ils vont quitter leur club, leur vie, leur train de vie aisé pour rejoindre Tunis, où se trouve la base du FLN, et rejoindre la première équipe nationale algérienne de football quelques années avant l'indépendance, qui aura lieu en 1962. Cette équipe fera des tournées dans le monde entier. Elle jouera à peu près 83 matchs, en gagnera 53, donc une équipe de très haut niveau, notamment dans les pays socialistes, la Chine aussi, le Vietnam, ou des pays sensibles à la cause quelque part tiers-mondiste, ou à la cause de l'émancipation, de l'indépendance de ces anciennes colonies africaines.
Et ça a été important pour la visibilité de la cause indépendantiste algérienne ?
Alors ça a été important, oui. Ça a donné sans doute du courage aussi aux maquisards. On sait que aussi la presse de l'époque était quand même soumise à une certaine forme de propagande. On sait que ça n'a pas été simple aussi pour l'équipe du FLN de trouver des équipes contre qui jouer, parce qu'elles étaient sanctionnées, elles étaient menacées de sanctions par la FIFA, qui ne pouvait pas accueillir des matchs contre cette équipe. En tout cas, oui, ça a été important aussi dans la construction de cette identité nationale algérienne, et par le sport aussi, que pour une des premières fois, le maillot algérien s'est levé avant l'indépendance et dans le monde.
Et aujourd'hui, que sont devenus ces anciens footballeurs de l'équipe nationale algérienne ?
Alors, ça dépend des générations. Moi, le plus ancien joueur que j'ai retrouvé avait joué au Havre en 1937. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. En 1937, on a des joueurs au destin contrasté que j'ai voulu reconstruire dans mon ouvrage, avec des destins entre deux rives, entre la France et l'Algérie. Et surtout pour les anciens de l'équipe du FLN, là je parle spécifiquement d'eux, notamment toute l'équipe autour de Rachid Mekloufi, qui faisait partie de la première vague de départ en avril 1958, ils ont beaucoup participé à la construction du mouvement footballistique algérien après 1962, en prenant des clubs civils, en les entraînant, en les dirigeant, mais aussi en s'occupant des équipes nationales, qu'elles soient civiles, militaires, universitaires ou juniors.
Vous êtes présent ce jeudi soir au Centre culturel algérien. Vous serez accompagné d'anciens footballeurs algériens ?
Tout à fait. À 19h, donc le jeudi 18 novembre, je vais présenter mon ouvrage au Centre culturel algérien de Paris, à 19h précise, en compagnie d'anciens footballeurs professionnels algériens, des joueurs entre deux rives, qu'ils soient nés en Algérie ou qu'ils soient nés en France, mais qui ont tous été pros. Je pense notamment à Nasser Guedjoura. Alors, vos auditeurs les plus fans de foot connaissent, bien sûr, Nordine Kourichi, la tour défensive, qui était là lors de la Coupe du Monde 82, lors du fameux match Algérie-RFA. Le match bien connu dans les mémoires, puisque l'Algérie avait gagné au premier tour, premier match. Et puis, il y aura aussi d'autres surprises. Voilà, d'autres joueurs aussi seront là, d'autres anciens internationaux. Et joueurs de très haut niveau, toutes générations confondues.
Stanislas Franquiel, historien et enseignant à l'université d'Artois, il répondait à Loïc Barrière. C'est aujourd'hui la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Emmanuel Macron annonce un renforcement du contrôle parental sur les écrans utilisés par les enfants et une nouvelle application pour aider les victimes à dénoncer les faits. Près d'un enfant sur 10 est victime de harcèlement à l'école et sur les réseaux sociaux. En plus du numéro 3018, une application 3018 sera donc lancée en février prochain pour permettre aux victimes et aux témoins d'adresser une capture d'écran de situation accusations de harcèlement. L'hebdomadaire Politis dans la tourmente. Le journal lance un appel à un soutien massif et rapide. Il en va de la survie du journal. L'une des figures de Politis, le journaliste et éditorialiste Denis Siffer.
La une de Politis cette semaine, c'est « Sauvons Politis ». Et évidemment, c'est un journal qui a toujours été un peu sur le fil du rasoir, hein, parce qu'il a été sous-capitalisé dès son origine. Et puis surtout, il est très jaloux de son indépendance financière, mais aussi politique, par conséquent. Donc, c'est un journal qui n'a jamais, eu un matelas capitalistique comme d'autres journaux peuvent l'avoir. Donc, donc des événements comme le Covid, le confinement, il y a eu une forte baisse des ventes en kiosque, à tel point que le journal a dû se retirer des kiosques momentanément, je l'espère, et donc une baisse aussi, une érosion des abonnements. Et donc, puis il y a eu l'augmentation du prix du papier, etc., qui est une des raisons du retrait des kiosques. Donc la direction de Politis lance une campagne. Il s'agit d'avoir 500 000 euros là, dans un délai très court, j'espère d'ici la fin de l'année. Et donc il y a dans le journal, sur le site politis.fr, tous les détails pour en effet apporter un don parfois défiscalisé d'ailleurs par l'association Presse et Pluralisme à Politis. Et il en va vraiment la survie du journal. C'est pas simplement une demande d'aide pour des plans de relance, etc. Plans de relance qui sont là, qui sont présents, mais qu'on peut pas mettre en œuvre. Mais il s'agit vraiment là de sauver un journal qui a 33 ans et qui a une place quand même très particulière dans l'histoire de la gauche.
Et vous rappelez que la presse indépendante est vitale pour la démocratie.
Oui, elle est vitale, surtout au moment où on voit qu'il y a une concentration dans les mains de prédateurs qui, bon, je ne citerai que Bolloré, mais il n'est pas le seul, mais il est le plus en visibilité. Donc il y a besoin d'une petite presse, parce que cette presse n'a pas la même audience, bien entendu, mais qui est totalement indépendante, sur laquelle on peut compter pour sortir un certain nombre d'informations qui ne sortiraient pas ailleurs.
Le journaliste et éditorialiste Denis Siffer, si vous souhaitez des Politis, vous pouvez vous rendre sur le site politis.fr. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi 17. Et si on en parlait ce soir à 19h et 23h, le thème de cette émission, école et inclusion, les ambitions affichées sont-elles en voie de réalisation? Les invités d'Alexis Bachelet, Sylvaine Corbion, docteur en sociologie, professeur des écoles, et Philippe Ouattrelot, professeur de sciences économiques et sociales. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe avec Mazen Hamoud.